Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 48FM, il est 9h29, tout de suite les titres avec Éléonore.
L'immigration au cœur de l'histoire belge, une exposition au Sartillement retrace l'histoire de celles et ceux qui ont façonné la Belgique. Rencontre avec Marco Martiniello, sociologue et spécialiste de la question. Les conflits à l'est de la République démocratique du Congo s'intensifient. La Cour pénale internationale exige un cessez-le-feu immédiat. Analyse dans la suite de ce journal. Et enfin culture, le prix des librairies indépendantes continue jusque mi-mars. Un prix pour mettre en valeur le travail de nos libraires face aux plateformes en ligne. Nous avons rencontré Catherine Victor de la librairie Pax. L'immigration a toujours façonné la Belgique bien au-delà des débats d'actualité. Avec 184 nationalités représentées, Bruxelles est aujourd'hui l'une des villes les plus cosmopolites du monde. Mais quelles sont les grandes étapes de cette histoire? Comment a-t-elle transformé le pays? Une exposition sur le campus du Sartillement explore ces questions. Marco Martiniello, sociologue à l'Université de Liège et auteur du livre qui l'a inspiré.
Il nous a semblé aussi important, compte tenu de tous les débats qui tournent sur les questions migratoires, de proposer cette information pour à la fois le public universitaire, mais aussi pour les étudiants, les personnes qui viennent de l'extérieur et qui sont en visite cette semaine. Concrètement, l'exposition qui consiste en fait en 27 panneaux, je pense, qui décrivent de manière chronologique l'histoire des migrations en Belgique et comment ça a profondément modifié la société belge. Ça contribue quand même à promouvoir un débat sur des faits relatifs aux migrations plutôt que sur des fake news. L'expo met en évidence des choses qui sont avérées, qui sont le fruit de recherches scientifiques depuis des années et des années. Et donc, ça permet un peu de revenir à des choses plus sereines plutôt que ce qu'on entend dans les médias et surtout dans les médias sociaux au sujet des migrations aujourd'hui.
Ce vendredi midi, le sociologue présentera l'exposition aux visiteurs pour en expliquer les enjeux et le parcours. Elle reste accessible jusqu'au lundi 10 mars. En retour du service militaire en Belgique, le ministre de la Défense Theo Franken a annoncé hier soir la mise en place d'un service militaire volontaire. Objectif, renforcer les effectifs de l'armée et sensibiliser les jeunes aux enjeux géopolitiques actuels. Dès novembre, une lettre sera envoyée aux 120 000 jeunes de 18 ans, les invitant à passer des tests sportifs et psychologiques au printemps 2026. Une première étape qui pourrait évoluer en fonction du contexte international. Réponse aux tensions géopolitiques ou premier pas vers un service obligatoire, Theo Franken reste prudent et assure respecter l'accord du gouvernement. Le double champion paralympique Maxime Carabin est accusé par plusieurs témoignages d'accentuer son handicap. Dans un documentaire sorti hier soir sur Cache Investigation, l'athlète originaire de Soumagne a réagi aujourd'hui. Il dénonce dans un communiqué des informations à prendre avec la plus grande circonspection et des adversaires dépités, des concurrents impuissants à le vaincre sur la piste qui choisissent alors la voie de la calomnie. 14e jour d'hospitalisation pour le pape François. À 87 ans, il lutte contre une double pneumonie et la question de la succession se pose déjà. Mais son état de santé préoccupe-t-il vraiment les jeunes? Nous avons tendu le micro aux étudiants liégeois et entre indifférence, respect et détachement, les avis sont partagés.
Si le pape venait à mourir, je ressentirais une certaine tristesse, je pense, même si je ne pratique pas régulièrement. J'ai grandi dans la foi et il reste quand même une figure importante.
Ce serait un choc pour tout le monde, mais c'est déjà arrivé à plusieurs reprises.
Moi, je ne suis pas du tout croyant, donc du coup, ça ne m'impacte pas vraiment. Maintenant, je suis curieux de savoir quel nouveau pape on va avoir.
Je serais un petit peu triste parce que ma famille est fort croyante.
Ce serait vraiment triste. Ma mamie va à l'église tous les week-ends.
On serait dans le deuil, mais en même temps dans l'hâte d'un nouvel arrivant.
Bon, il a eu quelques discours controversés, notamment avec la contraception, où moi, j'étais pas totalement d'accord. De manière globale, il a apporté beaucoup de choses et c'était un pape très à l'écoute et très ouvert. Et donc, ça a fait du bien à l'église.
En République démocratique du Congo, la situation à l'est du pays inquiète au plus haut point la Cour pénale internationale, Chelsea.
En effet, en visite à Kinshasa, le procureur de la CPI, Karim Khan, a lancé un appel urgent à un cessez-le-feu immédiat. Depuis lundi soir, il a rencontré le président Félix Tshisekedi, des magistrats et des associations de victimes. Son message est clair, il faut stopper les combats sans délai pour éviter une aggravation des violences et permettre à la justice de faire son travail.
Sur le terrain, la situation reste extrêmement tendue.
Oui, la résurgence du groupe armé M23 soutenu par l'armée rwandaise a plongé la région dans un nouveau cycle de violence. Des exactions contre hommes, femmes et surtout enfants sont rapportées et des milliers de personnes ont déjà été déplacées. Le procureur de la CPI a évoqué une initiative majeure, la mise en place d'une cour pénale internationale spéciale pour la RDC. Une conférence sur le sujet est prévue en avril à Kinshasa. Objectif : renforcer la lutte contre l'impunité et juger les responsables des crimes commis dans l'est du pays. Mais aujourd'hui, l'urgence reste d'abord humanitaire. Chaque jour, des civils subissent les conséquences des affrontements. Karim Khan assure que son équipe, sur le terrain depuis octobre, travaille activement pour documenter ces crimes et poursuivre leurs auteurs. Un message fort, mais suffira-t-il à faire taire les armes ? Une chose est sûre, la communauté internationale est appelée à agir rapidement.
Merci Chelsea. Et dans le reste de l'actualité internationale, Donald Trump relance la guerre commerciale avec l'Europe. Le président américain menace d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits européens. Il accuse l'Union européenne d'avoir été conçue pour nuire aux États-Unis. États-Unis et Europe s'écharpent aussi sur le sujet ukrainien. Donald Trump affirme que l'Europe doit assurer seule sa sécurité et écarte toute adhésion de Kiev à l'OTAN. Le Premier ministre britannique Keir Starmer doit apaiser les tensions sur tous ces sujets. Il sera en visite à Washington aujourd'hui. Au Proche-Orient, le Hamas a bien restitué cette nuit 4 corps d'otages israéliens. En échange, 600 prisonniers palestiniens ont été libérés dans le cadre de l'accord de trêve qui prend donc fin ce samedi. Cette trêve a permis le retour de 33 otages israéliens et la libération d'environ 1700 Palestiniens. Mais l'incertitude pèse toujours sur la suite du cessez-le-feu. La deuxième étape n'a toujours pas été négociée pour stopper définitivement la guerre et libérer tous les otages retenus à Gaza. On en parlait cette semaine, la Pro League envisage de revenir à un championnat à 18 équipes sans play-off dès la saison prochaine, Laura.
Oui, après plus de 15 ans de formule complexe, les clubs de D1 et D2 semblent avoir trouvé un consensus pour présenter aujourd'hui un plan unique de réforme. Si adopté, seule la dernière équipe jouerait un barrage pour éviter la relégation, excusez-moi. Les play-offs disparaîtraient malgré leur poids financier. Reste à voir si cette réforme sera validée. Verdict ce soir.
Les Red Flames s'inclinent face aux Portugaises en Ligue des Nations féminines.
La sélectionneuse nationale Elisabeth Cunhard-Sodir a connu hier sa deuxième défaite de suite pour ses deux premiers matchs. Les Portugaises ont inscrit l'unique but de la rencontre sur pénalty. Notre équipe nationale féminine est mal embarquée dans ce groupe. Lors de la prochaine trêve internationale, la Belgique sera opposée deux fois à l'Angleterre. Deux duels très compliqués où il faudra tenter de prendre des points.
Et enfin, défi relevé pour David Goffin à Acapulco.
Après sa première victoire depuis une centaine de jours à sec, le Liégeois a surpris hier le 14e mondial Ben Shelton, battu 7-6, 6-3. Grâce à cette victoire, Goffin se hisse en quart de finale du tournoi où il pourrait affronter le Danois Rune, tête de série numéro 4.
Merci Laura. Vous avez jusqu'au 16 mars pour voter pour votre livre préféré à l'occasion du premier prix des librairies indépendantes. Les membres du syndicat des libraires francophones de Belgique ont sélectionné 5 ouvrages parus en 2024, mais c'est au public de désigner le vainqueur. Catherine Victor, libraire chez Pax, membre du syndicat, explique à notre micro pourquoi il est essentiel de mettre en valeur les librairies indépendantes.
C'est un secteur difficile, hein, la librairie. Il faut se battre contre des gens comme Amazon et ça, c'est le nerf de la guerre pour les libraires. Nous, on offre une diversité, un service que vous n'allez peut-être pas avoir ailleurs. Et c'est ça aussi que le prix montre. Je ne pense pas qu'en termes de vente, ça fasse exploser les ventes, mais je pense que c'est une bonne chose finalement pour la visibilité du travail des librairies indépendantes. Pour nous, c'est vraiment le reflet de... on vous montre ce qu'on a aimé, quoi. En dehors de toute logique éditoriale ou dire tiens, telle grosse maison, ce qui est quelquefois quand même le cas de gros prix littéraires, style Goncourt, etc. Et c'est montrer, oui, notre singularité de choix, notre désir de partager des lectures différentes aussi, quoi.
Vous pouvez maintenant voter directement dans votre librairie favorite ou sur le site prixdeslibrairiesindépendantes.be. Toujours en culture, Michelle Trachtenberg, actrice américaine connue notamment pour son rôle dans la série Gossip Girl, est décédée hier à l'âge de 39 ans. Pour le moment, les causes de son décès n'ont pas été confirmées, mais sa mort ne serait pas considérée comme suspecte. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, même heure, sur 48 FM. Dans quelques instants, retrouvez l'émission Je m'informe des Master 1 en journalisme.